font subtilement écho. Nous commencerons par écouter Bernard Bruni, hein, qui est psychanalyste à Avignon, qui est AME. Ensuite, Patricia Gavilanes, qui garde sa position, qui est celle du programme, hein, qui est psychanalyste à Paris. Et enfin, Patrick Barillot, qui est psychanalyste aussi à Paris, AME. Alors, je voudrais remercier Patrick parce qu'aujourd'hui, il a une double casquette, hein, puisqu'il s'occupe encore et toujours, de la technique. Donc, merci Patrick, ce n'est pas toujours évident. Merci à toi. Alors, je donne tout de suite la parole. Alors, à Bernard Bruni. Alors, attendez, je vais essayer d'être rapide. Bernard,
Il l'a déjà.
il est là, d'accord.
Normalement, je
Bernard
l'ai.
Bruni, voilà, très bien. Donc, il a intitulé son intervention « Résistance » avec ce « S » à la fin qui est coincé dans la parenthèse. Alors, c'est à vous, Bernard.
Merci. C'est bon, le son est bon là?
Très bien, très bien.
Merci. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à contribuer à ce séminaire. Mais il faut que je dise quelque chose des conditions de cette invitation. Elle m'est tombée dessus. J'ai été invité, mais je n'en savais rien, puisque cela ne m'a pas été dit. Je l'ai lu sur le programme du séminaire. Voilà ce qui nous mène d'emblée au cœur du thème de cette année, ce qui vous tombe dessus. Mon premier élan aurait été de dire que je ne l'avais pas été invité, mais ce n'est pas exact. C'est la face résistance. Alors bien sûr, j'ai imaginé quelques raisons, puis je me suis renseigné auprès de qui pouvait répondre. C'était bien moi qui devais parler, mais il y a eu un bug. D'une certaine façon, nous sommes tous là à cause d'un bug, mais généralement habillés de quelques entours imaginaires. Là, nous en étions à sa plus simple expression. Il y a eu un court-circuit du temps de la demande. De toute façon, je n'ai pas envisagé de refuser, je ne suis pas dans cette école par hasard. Ça vaut presque un accord de principe. Et ce n'est certainement pas sans rapport avec l'effet de surprise. Le désir est concerné. Je me trouvais de facto hors de l'alternative être demandé ou se proposer. Voilà pour l'entrée en matière. En fait, ça n'a d'intérêt que parce qu'il s'agit d'un impair. Ce qui m'est tombé dessus m'a mis au travail et m'a donné l'idée du thème. Résistance. Est-ce en ce lieu de convocation qu'elle prend sa source? De quelle matière est-elle pétrie? C'est ce qui m'est venu sans trop savoir où ça pouvait mener, mais cela trouvait une résonance avec l'actualité. C'est donc au présent que je vais parler. L'actualité nous a plongés et nous plonge encore, mais un peu différemment, dans une situation éprouvante à plusieurs titres, qui n'a pas été sans effet subjectif. C'est à partir de questions qui se sont posées à moi pour la pratique analytique et dans le lien social qu'un travail de réflexion s'est engagé. Pour la pratique, en quoi cette nouvelle donne, l'épidémie puis le confinement, un réel insaisissable qui précède le symbolique, impactait le travail d'analyse. C'est la première dimension de la résistance telle qu'elle nous est amenée par Freud, la résistance à l'analyse. Une note notamment dans l'interprétation des rêves où il explique quand il y a une cause comme ça incontournable qui intervient.
S'il vous plaît, vous faites
Oui?
trop de bruit, Leonardo. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Actualisé ici sur la question de la présence physique de l'analyste. Point qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs travaux et échanges dans notre champ et qui amène à repréciser ce qui fait la spécificité de la psychanalyse. Cela concerne aussi notre manière d'échanger, de travailler, la passe, les cartels, les séminaires, les journées. Ce soir en est un exemple parmi tant d'autres. Les conditions d'échange par Zoom enlèvent une autre part de cette épaisseur imaginaire. Le souffle de la salle, son silence, son rire parfois, ce qui donne une autre matérialité à la présence. L'objet regard, l'objet voix prennent un tour particulier, accentuant la dimension de l'inhabituel, peut-être. Pour le lien social, c'est du côté de l'achoppement du discours politique et de ses errances aussi, de ses effets de production de résistance sous forme de discours alternatifs, qui sont peut-être plus de l'ordre de la résistance ou revendication du sujet, du désir, à se laisser dompter par le discours du maître, ici sur son versant privateur de liberté. Il ne doit pas être facile de gouverner en ce moment. Enfin, lors d'un récent travail de cartel, l'une des participantes s'est arrêtée sur ce thème de résistance qu'elle ne comprenait plus, ce qui a trouvé un certain écho du côté d'un « mais qu'est-ce qu'on croit comprendre après tout ?» Ça s'échappe dès qu'on essaie d'en dire quelque chose de compréhensible, justement. Différents points m'ont donné l'idée d'explorer ce qu'il pouvait en être de la résistance, ce qu'on met dans ce terme, classiquement ce qui fait obstacle au déroulement de la cure, et de ses ressorts, comment cela a été théorisé selon les époques et avec quelles conséquences. Quels éclairages nous pourrions, ou pas, en obtenir? Toutes les explorations ne sont pas forcément fructueuses. Mais l'intérêt d'explorer un champ avec un concept, c'est que ça oriente. C'est ce que nous a amené Lacan avec réel, symbolique et imaginaire. Nous sommes déjà dans un champ orienté. Parfois, on utilise un concept pour dire quelque chose, et ça n'est pas forcément exact, au sens de la théorie, de la place que prend tel concept dans la théorie. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la rigueur. Mais ce n'est pas une donnée d'emblée, ça se construit la rigueur, ça s'épure. C'est ce travail parcellaire, bien sûr, c'est ce que j'ai pu en retirer et entre autres de prendre la mesure de mon ignorance, que je vous propose de mettre en débat. Il s'agit de s'extraire de la dimension phénoménologique de la résistance, les formes prises par ce qui éloigne de la psychanalyse, notamment dans la conjoncture actuelle, pour en appréhender l'éventuelle position structurale. Je vais l'aborder selon cinq chapitres, suivant grosso modo la chronologie de l'enseignement de Lacan, en essayant de le suivre dans ce qu'il nous dit de sa démarche, utiliser les hésitations, impasses dans la théorie analytique, comme étant par elle-même révélatrice de la réalité à laquelle nous avons affaire. Dans le séminaire 6, en juin 1959. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre sous le chapeau résistance toutes les impasses de la théorie. Alors, mon premier petit chapitre. Donc, le lieu de la résistance, résistance et imaginaire. Ce concept arrive très tôt dans l'enseignement de Lacan, dès le séminaire 1, où il y réserve un très long développement, sans doute nécessité par l'actualité de la psychanalyse dans ces années-là. L'analyse de la résistance, l'interpréter la résistance, dont il se démarque en en faisant un abord structural qui va lui permettre de lever la confusion moi-sujet. Il nous en donne quelques repères. Elle est à prendre comme Freud l'amène, soit ce qui fait obstacle au travail analytique. Elle est interruption du discours, signant l'impuissance du sujet à aboutir dans le domaine de la réalisation de sa vérité. Résistance à la restitution du texte intégral symbolique, lié à l'expérience fondamentale imaginaire qui infiltre, constitue tout langage humain. Les humains étant des êtres incarnés qui pensent par le truchement de l'imaginaire, nous dit-il, et se manifestant souvent cliniquement par le sentiment teinté d'angoisse de la présence de l'analyste. Il y situe l'éthique de Freud, qu'il a amené à poursuivre sur le plan de son élaboration théorique, à passer de la notion d'obstacle à celle d'objet d'étude, prenant là une autre voie que celle de la réduction par la suggestion. Il l'a repéré dans son commentaire du cas d'Aura en lien avec l'ego de l'analyste, la somme de ses préjugés. Mais Freud savait déjà que c'est l'analyste qui provoque les résistances, disant « le premier effet de la règle fondamentale, c'est de rendre le sujet muet ». Enfin, pour l'analyser cette résistance, il nous dit qu'il faut aussi du temps, le temps pour comprendre. C'est l'élaboration de Freud, peut-être. Car ce dont il s'agit, ce n'est pas de lever la résistance, mais de faire jouer le signifiant. Le séminaire 2 va préciser cette question du sujet et du moi. Cette résistance, comme signe de l'inconscient, va apparaître alors sur plusieurs versants. Celui du moi, celui de la censure, qui est interne au discours, et celui du transfert. Ce qui fait qu'en interrogeant la résistance, Lacan en vient aussi à interroger le travail analytique. De quoi s'agit-il dans cette levée de l'amnésie infantile de Freud ? Parole à révéler de Lacan. Et par là, de la position de l'analyste, puisqu'il nous dit que la résistance, c'est celle de l'analyste. La résistance comme inertie. C'est l'application d'une force, par l'analyste, sur cette inertie qui fait la résistance. Piste qui mènera ultérieurement à déplier autrement ce qu'il en est de l'acte analytique. Mais cela, il le développe à partir de l'acte de Freud en train d'inventer la psychanalyse. Les conditions mêmes de cet acte, soit l'analyse de Freud, ou quelque chose de l'inconscient se réalise pour Freud dans son dialogue avec Fliess. Par exemple, il l'amène à propos de l'analyse du rêve d'injection à Irma. Ce que Freud met en évidence, c'est qu'il y a quelque chose d'original dans le sujet qui fait que ce n'est pas simple de le guérir de ses symptômes. Et il fait un lien entre la résistance et le contenu de l'inconscient, ce qui a été refoulé. C'est au regard de la dimension du sujet en jeu dans le procès symbolique de l'analyse que la fonction imaginaire du moi comme résistance prend place, avec la métaphore de l'ampoule triode qui image la fonction du moi comme filtre interposé au passage S barré vers grand A. C'est à cette fonction qu'est soumis le passage de ce qui est à transmettre dans l'action analytique. Modélisation logique du modèle de l'appareil psychique de Freud. Résistance et désir, donc deuxième sous-chapitre, résistance et désir. Résistance et désir sexuel sont des concepts liés pour Freud. Il s'agit de délivrer de l'insistance qu'il y a dans le symptôme. Ce que Lacan renverse en la résistance, c'est l'état actuel d'une interprétation du sujet, la façon dont il interprète le point où il en est. La manière dont le fantasme articule la position du sujet à l'égard du désir, ce dans quoi il s'organise pour subsister comme désir, donnant là la dimension structurelle de la névrose, où ce sont les symptômes mêmes qui sont le lieu où il trouve sa jouissance. Troisième sous-chapitre, donc, résistance et transfert. Une fois dégagée la résistance propre à l'imaginaire, l'inertie, arrive la répétition, le transfert dans sa phase de résistance, ce qui va permettre à Lacan d'en donner de ce transfert une approche plus détaillée. La résistance du sujet à la rémémoration, ce qui ne peut être remémoré, se répète dans la conduite, nous dit Freud. Conceptualisation de la répétition en acte dans le transfert, avec un noyau, contrainte de répétition, référé à une cause traumatique. Ce qui nécessite la répétition, c'est la jouissance. Lacan en dégage le « ce qui peut être remémoré », »,« ce qui ne peut être remémoré », pardon, soit la résistance de la signification, donc il en dégage de la répétition. Le transfert étant le moyen par où s'interrompt la communication de l'inconscient, la présentification de la schise du sujet réalisée dans la présence de l'analyste, le transfert sur son versant amour, ce qui cause la fermeture, c'est l'objet. La répétition est fondée sur un retour de jouissance, mais ce qui se répète est en perte, en défaut de jouissance, fonction de l'objet perdu. Et dans ce rapport à l'objet-cause, pour revenir à ce que j'ai amené au début, on pourrait évoquer la dimension du transfert de travail, qui n'a pas le même destin. Après cette première période, ce concept va être abandonné. L'objectif avoué de Lacan était de faire un sort à l'analyse des résistances comme élément technique princeps. Là où Freud mettait la résistance, Lacan y mettra l'acte et le désir de l'analyste, avec cette visée du franchissement du plan de l'identification traversé du fantasme. Mais ceci n'en laisse pas moins ce qui résiste exister, non plus dans sa dimension d'obstacle sur un chemin idéalisé, mais comme ce qui vient faire signe d'un impossible. Le terme de résistance n'est alors plus approprié. On peut dire que Lacan a opéré un déplacement, un décentrement, qui situe en place de résistance un certain nouage, d'abord imaginaire symbolique, l'inertie, puis avec la répétition, symbolique réelle. Ce qui relève de cette place de la résistance relève de plusieurs ordres. Toutefois, il va y avoir une suite sur ce qui confronte l'analyste à sa fonction, et par là la conception de la fin de cure, mais aussi une reprise de la dimension de la résistance à la psychanalyse. Donc, quatrième chapitre, donc. Résistance à la psychanalyse, statut de la vérité et révolution dans le savoir. C'est le projet de Lacan depuis le départ de son enseignement, restaurer le tranchant de la découverte freudienne, laquelle s'est faite dans le mouvement même de la résistance à celle-ci. D'ailleurs, un certain nombre des écrits de Freud sont pour répondre à ses disciples sur des points de divergence théorique. Jung, par exemple, plus célèbre. La résistance à la psychanalyse, c'est l'élaboration de la psychanalyse elle-même. Cette résistance est conséquence de la modification concernant le statut du savoir et la place de la vérité dans la psychanalyse. La vérité ne prend son sens qu'à partir d'un statut du sujet. La découverte freudienne bouleverse cette position de sujet. De la vérité, Lacan en fera une place en fonction dans le discours. C'est dans le double séminaire, ou pire, le savoir du psychanalyste, qu'il va reprendre cette question. Ce que Freud présente comme une résistance à la révolution copernicienne sur le savoir, que représente la psychanalyse, Lacan va opposer que ce savoir qui ne se sait pas, savoir insu à lui-même, est structuré comme un langage, et ce qui ne passe pas, c'est qu'il s'agit d'une subversion dans la structure du langage, et ce savoir est de l'ordre de la jouissance. Ce qui permet d'éclairer autrement la question du moi développée dans ma première partie, donc un savoir qui ne se sait pas, là où se révèle l'inconscient, de faire défaut au discours du petit maître qu'est le moi. Donc c'est ce qu'il nous dit dans la séance du 17 décembre 1969. Résistance, donc dernier chapitre, résistance et acte, le statut de l'interprétation. La résistance est le pivot de toute l'histoire de l'analyse en tant qu'elle convoque le psychanalyste. Je cite Lacan, donc, dans au pire. La pollution la plus caractéristique dans ce monde, c'est l'objet A, dont l'homme prend substance, et que c'est le devoir de devoir en faire, c'est de devoir en faire en son corps d'analyste représentation, là qu'est le ressort de la résistance de l'analyste à vraiment remplir sa fonction, d'élever cette fonction à une position de semblant, position clé de tout discours. Car ce qui est porté à la position de commandement est de l'ordre du réel, en tant que tout ce que nous touchons du réel, c'est la spaltung, refente. Quant à l'interprétation comme savoir en tant que vérité médite, donc ça, il en parle en 69, ça, elle est à la fois énigme et citation, car elle fait appel à l'auteur. C'est la merveille de cette invention du dispositif analytique par où le réel touche au réel, ce que Lacan articule comme le discours analytique. Enfin, pour terminer, il nous en donne un autre exemple dans le séminaire Le Saint-Homme, la séance de 12 décembre 75, alors qu'il cherchait sans succès le nœud borroméen de 4 nœuds à 3, il lui a été amené par Souris et Thomé. Il met cela sur le compte de la résistance que l'imagination éprouve à la cogitation de ce qu'il en est de cette nouvelle géométrie. Il dit l'avoir éprouvée, mais il poursuit l'étrange, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils s'y avançaient en parlant entre eux. On n'a pas l'habitude de penser à deux. Et ce dialogue fécond, c'est ce qui lui a manqué. J'y vois là quelque chose en relation avec ma question de départ. Pour accéder à, pour concevoir quelque chose du réel, l'imaginaire y fait obstacle. Le penser à deux, je ne saurais pas comment le théoriser autrement que par le jeu du symbolique, qui a produit là, dans cette constellation, une trouvaille. En conclusion, Lacan ne nous dit pas que Freud était mal orienté par rapport à la résistance. Il dit que ses suiveurs se sont égarés. Et pour cela, il revient à interroger ce qui faisait résistance pour Freud. À la dimension de l'obstacle, qui va le décliner de plusieurs façons, il y a un symbolique imaginaire autour du transfert et du désir, il va être amené à déplier ce qui semble relever d'une impossibilité qui ne peut se cerner que comme élément logique. On est là dans un au-delà de Freud. Une fois dégagé ce premier parcours, il m'apparaît que la question, enfin une parmi d'autres, qu'il me reste à traiter, est celle du rapport entre le transfert de travail et l'objet-cause. Là, j'ai sans doute le ressort de la surprise. Je peux maintenant remercier les organisateurs de ce séminaire, et ce n'est plus simple formule d'entrée en matière, de m'avoir, par cet oubli et son effet d'intranquillité, fourni matière à travailler.
Bon, merci Bernard pour votre intervention. Nous allons maintenant écouter Patricia Gavilanes. Le titre de son exposé est en forme de question sur une origine. D'où vient ce qui nous tombe dessus? Bon, c'est à toi, Patricia. On t'écoute.
Merci. Je voudrais partir d'une question qui m'a été adressée par une collègue du CESAD Pro où je travaille. Pourquoi ce sont les jeunes les moins drôles et les plus timides qui veulent devenir des comiques? L'un de ces jeunes à qui ma collègue se réfère a 19 ans. Il est en effet très introverti et inhibé. Ce jeune n'a pas beaucoup d'idées concernant son avenir professionnel et lors des rencontres avec lui, il donne l'impression d'un vide mental. Il a même du mal à suivre les discussions banales et toute question que lui adresse le plonge dans un état d'incertitude et sa seule réponse est « je ne sais pas ». Cependant, il y a une seule chose dont il soit sûr, c'est qu'il veut devenir un comique. La comédie est définie par Aristote comme l'imitation des hommes inférieurs. Il ne s'agit cependant pas de n'importe quelle bassesse, mais de ce qui est comique et qui n'est plus qu'une partie du lait. En effet, le comique, c'est un défaut et une laideur qui ne suppose ni douleur ni destruction. Le masque comique, c'est un bon exemple. Il est laid et difforme sans exprimer la douleur. Ce jeune homme qui veut devenir comique montre bien quelque chose de cet ordre. Il dépasse avec sa capacité d'imitation ce qui l'entrave. Il semblera bien se débarrasser de ce dont il est empêché dans la relation à l'autre. Il met hors de lui-même son propre mutisme, sa propre inhibition. La vie n'est pas tragique, elle est comique, nous dit Lacan. Il se demande pourquoi Freud n'a pas pris un chemin plus court, celui de la comédie, pour expliquer ce à quoi il avait affaire dans les rapports qui lient le symbolique, l'imaginaire et le réel. Il est assez curieux, s'étonne Lacan, que pour désigner ce dont il s'agissait, Freud n'a rien trouvé de mieux que le complexe d'Édipe, c'est-à-dire une tragédie. Certes, dans la démarche de ce jeune homme dont je vous parle, il y a en effet une sorte de court-circuit. Là où il est économe avec ses mots, il arrive à saisir dans l'afflux des langages les malentendus spécifiques et nécessaires au mot d'esprit, solidaire toujours du comique. Ce jeune homme nous mène vers une espèce de conversion, une transformation. Lui qui se montre toujours dans un complet état d'inhibition peut finalement s'ériger en imitateur comique très à l'aise. Les plaisirs du comique relèvent, selon Freud, de l'économie d'une dépense d'investissement, de représentation. Le réel du corps est donc là. Et ce jeune homme est pris dans le mouvement de l'imitation et de la mise en scène. Ces transformations matérielles de son état, nous pourrions la percevoir comme spontanée, non causée par des événements extérieurs, surprise donc de la jouissance du corps. Si je vous parle du comique à travers ces jeunes hommes, c'est parce que dans les comiques et dans les mots d'esprit qui viennent toujours s'y ajouter, il y a nécessairement un effet de surprise, une inattendue qui vient de l'inconscient, du dedans du corps, de celui qui se met en représentation et qui interpelle l'autre qu'il s'agit de faire rire. Freud nous signale que dans l'humour, comme dans les mots d'esprit, il est comique, il y a quelque chose de libérateur, mais aussi quelque chose de sublime et d'élevé. Ce sublime tient au triomphe du narcissisme, à la invulnérabilité du moi qui refusera sa faiblesse devant le monde extérieur. Le moi, c'est une fonction à laquelle on donne corps, nous dit Lacan. Le moi n'existe qu'avec la référence à l'imaginaire. Il est totalement illusoire, mais c'est une illusion qui tient et qui est, à proprement parler, incassable. Je continue avec Lacan. L'imaginaire fait partie du réel, c'est-à-dire que sans la référence à l'imaginaire, il y a un tas de choses qui ne fonctionneraient pas. Le réel n'est pas considéré tout entier comme imaginaire, mais le réel reste toujours très proche de cet imaginaire fondamental qui soutient la position debout chez l'animal humain. L'identification à l'autre en tant qu'il tient debout donne la métaphore fondamentale, celle du stable. Ce qui tient debout, et là-dessus se branche toute cette histoire du moi, nous dit Lacan dans sa conférence au rapport sexuel à Milano de 1973. Ce n'est que grâce à la langue que la domination de l'image n'est pas tout à fait prévalente. Avec la langue, on peut envisager un autre mode d'accès au réel. Pour Lacan, la structure de l'homme est torique. D'une certaine façon, le tore est en lui-même un trou. D'une certaine façon, il représente le corps. Qu'est-ce qu'un trou? Se demande Lacan. Un trou comme ça, des sentiments, nous dit-il, ça veut dire quand je craque la surface. Je veux dire par là que d'intuition, encore Lacan, notre trou, c'est un trou dans la surface. Mais une surface a un endroit et un envers. Et ça signifie donc qu'un trou, c'est le trou de l'endroit puis les trous de l'envers. Le tort nous donne aussi l'image de ce qu'il est du lien du conscient à l'inconscient. Le conscient et l'inconscient communiquent. Ils sont supportés tous les deux par un nœud torique. À partir de cette structure torique, il n'est alors plus question des notions d'inconscient enfoui. Il n'y a plus de place pour une dualité pulsionnelle, mais pour une notion de jouissance vivante, celle du réel du corps. Comment envisager donc ce qui nous tombe dessus avec ce qui est déjà là, à la surface? Qu'est-ce qui fait trou? Freud nous indique que dans les névroses traumatiques, ce qui semble peser le plus lourd dans leur déterminisme, c'est l'effet de surprise, l'effroi. Il nous dit aussi que si le sujet subit en même temps une lésion ou une blessure, ça s'oppose en général à la survenue de la névrose. Les corps blessés, troués, amortit-il l'effroi de la surprise sur le sujet? Et ce qui nous tombe dessus a-t-il un effet sur l'inconscient? Modifie-t-il sa structure ainsi que ses conditions d'émergence? Ce qui nous tombe dessus, tel un corps étranger, viendrait déranger, couper la manière dont l'individu a organisé sa vie. Le réel qui nous tombe dessus coupe les trames de la chaîne signifiante et les automatismes de répétition du sujet. Ce réel fait infraction, prend au dépourvu le sujet, les vidant de tout sens. C'est les uns imposés qui excluent toute une autre alternative. Là où le sujet est démuni, il lui faudra une relance, un passage, un lieu avec des mots, et tout en se rappelant qu'il est dans la nature celui des êtres qui tient debout. Pour finir, je vais évoquer les poèmes auxquels Freud recourt pour terminer son texte de 1920, L'au-delà du principe de plaisir. La poésie, bien dans ses fins de texte, a la place d'une foule de questions sans réponse. Dans ses poèmes, Freud cherche de la consolation face à la lenteur et à l'impossibilité de la science d'éclaircir les phénomènes psychiques. Voici les poèmes. Ce qu'on ne peut attendre en volant, il faut l'attendre en boitant. Boiter, dit l'écriture, n'est pas un péché. Je vous remercie de votre attention.
Oui, merci Patricia pour cette intervention très originale, je trouve. Je vais donner la parole à Patrick, lui qui va intervenir sur le titre « Ce qui du sexe nous tombe dessus ». Alors, je rajouterai « Cela répond-il un peu à la question de Patricia ?» Voilà, c'est à toi Patrick, merci.
Alors, la sexualité, ça m'est tombé dessus. Je suis victime de mes envies. Voilà les paroles d'un jeune patient que j'étais amené à voir quelque temps avant que le confinement ne mette un terme à nos entretiens en raison de son départ de Paris. Alors, j'ai trouvé que ce cas, dont je n'ai que ce que l'on peut recueillir en quelques séances préliminaires, me donnait néanmoins une opportunité, trop belle pour ne pas la saisir, de me questionner sur ce qui nous tombe dessus de l'inconscient en matière de sexe et qui peut faire surprise, pour reprendre le titre de notre soirée. Alors, en quoi l'inconscient nous réserve-t-il des surprises? Surprise de l'inconscient indique que ce qui se manifeste de l'inconscient était inattendu. Inattendu pour le sujet, c'est certain, avec cependant une question. Jusqu'à quel point était-ce inattendu? À propos des formations de l'inconscient, dans le séminaire 11, Lacan, à la suite de Freud, parle de la surprise de l'inconscient comme, et là je le cite, ce par quoi le sujet se sent dépassé, par quoi il en trouve à la fois plus et moins qu'il en attendait, mais de toute façon, c'est par rapport à ce qu'il attendait d'un prix unique. Cette trouvaille, dès qu'elle se présente et retrouvaille, est toujours prête à se dérober à nouveau. Donc ici, il s'agit des surprises, des formations de l'inconscient, c'est-à-dire les rêves, les lapsus, actes manqués. Ça fait surprise, car ce n'était pas programmé, pas prévu. Mais l'inconscient nous réserve aussi d'autres surprises, que c'est celle des formations de l'inconscient, auxquelles on ne s'attendait pas en entrant dans l'analyse. Dans cette catégorie, je mettrai volontiers le réel de l'inconscient, qui est un inattendu pour le sujet, bien qu'il relève de la structure du langage, du nécessaire de la structure. Peut-on dire que ça nous tombe dessus ? Question. En tout cas, le pas de rapport entre les sexes, quand arrive l'heure de vérité dans l'analyse, peut avoir un effet de surprise. C'est une surprise de révélation, car il était toujours là, en attente de son dévoilement par l'analyse. Il en va de même pour la castration. Le pas de rapport et la castration valent pour tout, ce sont deux universels. Alors sur un autre versant de la surprise, il y a ce qui de l'inconscient réel prouve pour surprise, qui est propre à chacun, que je situerai plus du côté de ce qui réellement nous tombe dessus car imprévisible, contingent. Et pour ce soir, j'ai plus précisément cette question, qu'est-ce qui du sexe nous tombe dessus et qui relève de l'inconscient ? Alors j'ajouterai que la surprise dans l'analyse ne doit pas être que du côté de l'analysant. L'analyste doit aussi pouvoir se laisser surprendre parce que l'inconscient produit comme surprise. Alors je reviens au cas de ce jeune homme pour en dire quelque chose, quelques mots. Alors, c'est un sujet qui vient avec un double questionnement. Le premier porte sur son identité sexuelle. Suis-je homme ou femme ? Première question. Et l'autre sur son choix de partenaire, son objet de désir sexuel, qui oscille entre homme et femme, homme ou femme. Ce double questionnement se concentre dans cette interrogation qu'il formule ainsi. Quand je vois une femme, je ne sais pas si je veux la baiser ou être cette femme physiquement. Son enfance n'aura pas été sans être marquée par ce questionnement. Jeune garçon, il voulait être une femme, s'habiller en femme. Dans ce jeu être une femme, il ajoutait un trait distinctif, être une femme grosse. Plus tard, la satisfaction sexuelle que lui apporte la masturbation viendra compléter ce jeu de travestissement. Son désir d'être une femme corpulente est soutenu par un fantasme de soumission. Pour lui, être une femme grosse relève de la faiblesse, d'un laisser-aller. Cependant, il balance toujours entre l'être cette femme ou bien l'avoir, puisque les rondeurs aiguisent son désir d'homme. Cet homme, il aurait voulu l'être fort, ça aurait marqué sa virilité, alors qu'il se trouve lâche. Confronté à une bande de garçons, il se sent intimidé, en position de faiblesse, en contradiction avec son idéal d'un qui ne se laisse pas intimider, fort de son courage. L'incertitude de son identité d'être sexué se redouble de celle du choix de son partenaire. Il peut se penser gay, mais rejette cette idée, n'ayant pas d'attirance pour les hommes, tout en s'imaginant avoir un rapport avec un homme. Des femmes, il en a connu, pas beaucoup. Mais une fois conquis, ça ne l'intéresse plus, bien que comme il le dit, mes pensées ne vont qu'aux filles et en même temps, j'ai envie d'en être une. Alors, sa sexualité est vécue dans la crainte d'être démasquée, que l'on devine ses envies sexuelles, ce qui le met évidemment mal à l'aise. Et de conclure, la sexualité, ça m'est tombé dessus, je suis victime de mes envies, je n'ai pas le contrôle de mon corps. Alors, ce cas dont je ne vais pas discuter la singularité, en tout cas, m'a permis d'ouvrir la discussion de ce qui, en matière de sexe, peut être dit sur prise de l'inconscient, de ce qui nous tombe dessus. Avec cette réserve, si on tient compte qu'en matière de sexe, le sujet a le choix. En effet, avec la thèse du choix du sujet en matière de sexe, on ne peut pas dire que ça nous tombe dessus puisque c'est un choix. Mais alors, comment répondre de ce que la clinique nous donne à voir? Que pour le sujet, ce n'est pas un choix, au contraire, une contrainte, voire un dommage. Il est manifeste que ce patient ne vit pas du tout son identité sexuelle comme un choix. On perçoit bien, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu, qu'il penche pour le côté femme, que ses pratiques de jouissance de corps se font dans l'enveloppe imaginaire d'un corps de femme, ce qu'il n'accepte pas. Alors, de quoi relève ce qui s'impose à lui et contre lequel il est en lutte? La thèse que nous avons, disant qu'en matière d'identité sexuelle, le sujet a le choix, vient dans l'enseignement de Lacan avec l'introduction des formules de la sexuation dans l'étourdi en 72. Jusqu'à cette période, le répartitoire sexué à dominance imaginaire se faisait entre être ou avoir le phallus. Même si la dominante est imaginaire au sens de l'image du corps, elle s'appuie néanmoins sur le réel de l'anatomie qui reste déterminant dans le discours a priori qui vous fera homme ou femme. C'est-à-dire qu'avec le signifiant phallique du manque qui significantise l'organe mâle, on est destiné à être dit homme ou femme selon que l'on a ou pas le phallus. Dire a priori qui vous fait homme ou femme. Puis ensuite, comme quand l'article dans l'étourdi, vient le discours a posteriori des parents, du social, qui dit comment on doit se comporter en tant qu'homme ou femme. Alors, les nouvelles formules de la sexuation, avec l'instauration du signifiant grand-phi, de la jouissance et de la fonction phallique, permettent d'aller au-delà de la dialectique phallique qui réglait la question du désir et de l'identité sexuée. Disjonction donc entre la fonction phallique et le phallus. Cette introduction, l'introduction avec les formules d'une deuxième logique, celle du pas-tout, en plus de celle du tout phallique, autorise plus de latitude au sujet quant à son identité sexuée. Elle lui autorise un choix, mais un choix borné. Déjà en elle-même, ces formules tiennent compte de l'anatomie, puisqu'à partir d'elles, Lacan nous dit qu'il nous faut obtenir deux universels, deux tout, deux moitiés telles qu'elles ne s'embrouillent pas trop dans la coitération quand ils y arrivent. Ces deux moitiés étant nécessaires à ce que l'acte hétérosexuel se réalise aux fins de reproduction de la vie. Premier bornage, et à celui-ci vient s'ajouter, à partir des développements qui suivront encore, que la jouissance étant appareillée par le langage, elle est soumise à la castration et à l'impossible du rapport. Ce rapport auquel la jouissance phallique objecte tout en y suppléant. Donc à tout cela, le sujet ne peut échapper, aucune liberté possible. Néanmoins, l'introduction d'une autre logique que celle du tout phallique, de l'Oedipe freudien, la logique du pas-tout offre au sujet la possibilité de ne pas s'inscrire dans le tout. Il peut se dire femme, il peut le faire sans que pour autant cela remette en question le réel biologique du corps. Avec cependant une question, se dire femme suffit-il à l'être? Il me semble que c'est le cas de ce patient qui peut se dire femme sans pour autant rejeter le fait qu'il soit porteur du phallus. Est-il transgenre? On peut dire que non si on se réfère à une définition stricte, puisqu'il ne revendique pas une identité sexuelle en opposition à celle que lui fait son état civil. L'identité sexuée du dire a priori. D'une autre façon, on peut dire que oui, dans la mesure où il récuse le genre qui lui est attribué, en se disant femme, mais sans aller jusqu'à la transformation qui toucherait le réel du corps. Alors, du côté homme des formules de la sexuation, vous savez que Lacan place l'hystérie, qu'elle soit masculine ou féminine. Je me suis questionné, en quoi est-il autorisé à le faire? Comment assigner cette place à l'hystérie sans retomber dans un dire a priori, donc qui ne serait pas du sujet, pour laisser justement le choix au sujet? Cette question, je me l'ai aussi formulée aussi pour les mystiques, puisqu'il peut les placer du côté femme comme du côté homme. C'est le cas pour Angelus Silesius, qu'il place du côté homme, et Saint Jean de la Croix du côté femme. C'est-à-dire qu'on peut être mâle et se placer du côté femme de la jouissance. Alors, la réponse que je me suis faite, c'est qu'il peut, que s'il peut placer l'hystérie féminine du côté homme, ce n'est pas du dire a priori, c'est parce qu'elle-même s'y place à vouloir faire l'homme. Il en va de même pour Angelus Silesius, puisque c'est la présence de l'objet petit a sur la forme du regard, l'œil de Dieu, dont le mystique témoigne, qui le place du côté homme. L'homme, par définition, étant celui qui interpose l'objet petit a entre lui et son partenaire, jouissance perverse. Le sujet a donc une marge de liberté pour se placer d'un côté ou de l'autre par son dire, qui est quand même contrainte, cette marge de liberté, par les nécessités liées à la logique du langage, qui n'est pas celle des discours. Ce que ces formules ne déterminent pas, en revanche, c'est le choix du partenaire sexuel, quand il y en a un. Dans le cas de ce sujet tourmenté par son identité, le choix du partenaire reste hétéronormé. Il est à remarquer aussi que le choix d'un partenaire de l'autre sexe pour l'acte ne lui confère pas une assise identitaire sexuée. À ce sujet, pas d'assurance à être homme, même à se choisir une femme comme partenaire. Autre disjonction entre l'acte sexuel hétéro et l'identité homme ou femme. C'est-à-dire que l'acte sexuel n'identifie pas, ne fait pas la preuve de l'identité sexuelle. Alors finalement, qu'est-ce qui s'impose à lui? Disons que c'est sa jouissance de corps, en tout cas pour la phallique, celle qui fait son symptôme et qui ne vient pas de l'autre, du dire de l'autre, ni du sujet, mais de l'inconscient. Et à ce niveau, le sujet n'a pas le choix. Ce n'est pas lui qui décide de sa jouissance de corps ou de celle prise au corps de l'autre dans l'acte. Ce n'est pas non plus le désir qui la détermine, même si, disons, en bonne clinique borroméenne, son symptôme n'est pas sans être noué au fantasme, à ce qui cause son désir. Dans son cas, le fantasme de la soumission. Donc, pour le coup, ça lui tombe dessus au sujet. Le réel du symptôme comme événement de corps, et ça détermine son être propre, dans la mesure où le symptôme identifie notre singularité. Cependant, cette identité n'est pas sexuée, c'est une identité de jouissance. Cette jouissance de corps, le patient l'obtient dans un premier temps, travesti en femme avec ce trait distinctif de la femme grosse, par l'orgasme que lui procure la masturbation. Puis dans l'acte hétéro, avec une partenaire porteuse du même trait. Il y a une question qui m'est venue à la suite de ces réflexions au sujet de la jouissance autre, la jouissance supplémentaire à la phallique, qui passe aussi par le corps où il se trouve, celle qui n'a pas de signifiant dans l'inconscient et sur quoi repose la logique du pato. Donc, à propos de cette jouissance haute, peut-on dire qu'elle nous tombe, enfin, celles qui sont concernées, peut-on dire qu'elle vous tombe dessus? Donc, pour terminer, pour conclure, s'ouvre pour le psychanalyste à cette question. Maintenant, la question maintenant devenue courante dans notre communauté, de comment accorder son acte au réel du symptôme qui fait l'identité de jouissance et qui n'est pas du sujet. Voilà, je termine.
Bon, merci Patrick. Je vais simplement, pour ne pas perdre du temps et pour laisser place à la discussion, tirer quelques fils de vos textes. D'abord, vous remercier pour leur qualité et puis la surprise aussi en les lisant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse traiter cette question-là comme ça. Donc, je vous remercie. Alors, donc, le temps de lancer la discussion, le temps que la salle virtuelle s'anime et se fasse entendre de vraies voix. Hein, voilà. Alors, ce qui ressort, me semble-t-il, dans vos exposés, enfin, du moins pour moi, c'est que ça interroge le lien qui existe entre l'inconscient et la jouissance des corps. Et s'il y a une séparation hein, qui est très bien notée entre le sujet et sa jouissance, cette séparation n'est pas sans répercussion, puisque le sujet, on sait qu'on est embarrassé, l'éprouve, donc quelque chose passe hein, entre les deux, entre le sujet et la jouissance du corps. Hein, pour reprendre le terme de Patricia, de l'étranger surprend le sujet. Alors, je voudrais à ce titre extraire un fil qui traverse donc vos textes, enfin, le fil que j'ai tiré, c'est le terme de résistance hein, que j'emprunte à Bernard. Je rappelle sa définition de la résistance. C'est une qualité par laquelle un corps résiste à l'action d'un autre corps. Et je pense aux trois corps proposés par Lacan, corps réel, corps symbolique, corps imaginaire. Alors, dans ce que vous développez chacun, quel corps résiste à l'action de quel corps? Un corps est-il plus puissant qu'un autre? Ou à chaque situation, un corps prendrait-il le dessus? Hein, voilà, j'avais cette question à vous poser à vous trois. Peut-être on peut déjà répondre, si vous voulez, pour commencer, puis peut-être il y aura des questions de la salle et moi j'aurai d'autres questions éventuellement à chacun d'entre vous. Voilà. Je ne sais pas si l'un, ce sont les l'un ou l'autre peut commencer à parler de ce corps qui résiste et lequel hein.
C'est Bernard qui a parlé de la résistance.
Oui, allez Bernard.
Bonjour. Oui, je ne m'attendais pas à cette remarque. Je ne saurais pas le développer. Ce qui me vient comme idée, c'est l'idée de corpus, quoi. Corpus analytique aussi. Mais je ne saurais pas le développer comme ça pour l'instant. Mais voilà.
Patricia, peut-être? Par rapport à ton... Hein, c'est aussi les cas cliniques hein, qui m'ont posé, qui ont fait émerger ces questions. Hein.
Oui, c'est une question qui d'une certaine manière je me suis posée aussi hein, et avec la citation de Lacan hein, avec les trous hein, la surface quand il dit qu'il y a un trou c'est quand on fait crack hein, et je me suis posé la question hein, en lien avec la définition des névroses traumatiques de Freud, hein, quand il dit qu'il y a le corps blessé, hein, et quand il y a le corps ou il y a une blessure physique, hein, pour Freud, il est très clair dans ce sens, hein, il dit que parfois ça épargne. Ça amortit un peu les effets psychiques. Hein? Et c'est là où je me suis posé ces questions de comment ces corps blessés, hein, que j'ai appelé un peu troués, hein, pour faire référence à ces trous quand il fait crack, et ça épargne quelque chose des effets psychiques, hein, du trauma. Hein? Et pour Freud, il dit les sujets, c'est il est concentré sur les blessures du corps, il laisse un peu du côté, hein, je l'ai dit d'une manière un peu grossière et rapide, hein, et les traumatismes, hein, psychiques. Et je me suis posé comment ces corps et imaginaire des jouissances, hein, peut parer, hein, peut faire barrière un peu à ces faits du réel. Hein. Et, c'est difficile à dire, hein, mais et, je sais pas, j'insistais et j'ai trouvé ça intéressant d'insister sur ces positions debout. Hein. Parce qu'il me semblait que tout au long de l'enseignement de Lacan, ça reste un peu malgré tout. Hein. Et ces positions debout, alors c'est qu'est-ce que le corps peut s'y résister, je ne sais pas comment. Hein. Avec, en sachant qu'on tient beaucoup à notre corps. Hein, hein, quand Freud dit c'est le narcissisme, voilà, quand il y a ses blessures, on se concentre. Hein, quand il dit on a mal aux dents, on pense qu'à ça. Hein, il y a quelque chose de. Alors, je ne sais pas si ça peut protéger, hein, l'effet traumatique.
Oui. Patrick, peut-être sur ce jeune homme qui est en lutte, hein, qui est en résistance parce que ce qui lui tombe dessus, hein, si tu peux en dire quelque chose.
Bah, d'abord, te poser une question, le lien entre l'inconscient et la jouissance du corps, c'est une grande question. Ça. C'est,
oui, oui.
Parce qu'on... La doctrine lacanienne, c'est de considérer qu'il y a une jouissance, une partie... Bon, je ne pense pas que toute la jouissance, enfin, une partie de la jouissance du corps qui est prise, enfin, prise, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, en tout cas qui est fixée par l'inconscient, par les uns de l'inconscient, une partie mais pas toute. Je pense que ça c'est sensible. Après, ta question, je ne la saisis pas trop. Quel corps résiste à un autre corps? Je ne vois pas trop ça.
C'est-à-dire que dans vos interventions, il y a quelque chose, par exemple, dans ton cas, dans le cas dans la vignette que tu présentes, j'ai pensé au corps symbolique, c'est-à-dire au fait que ce garçon parle, ce jeune homme parle, et quelque chose dans son corps résiste, enfin, est en contradiction avec ce qu'il pense. Donc, je me suis dit que là, il y avait la présence des différents corps articulés, hein, hein, et qui viennent en opposition, en contradiction, en résistance. Hein.
Oui, donc oui, c'est la distinction entre le corps de jouissance, le corps du symbolique, et comment les deux s'articulent, voient l'un se fondre dans l'autre, etc.
Oui, parce que ce que tu proposes, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose là, c'est rare que ça soit aussi précis. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on le voit un petit peu de façon. Assez
quand,
net.
Quand, j'ai trouvé, je me suis intéressé à ce cas, parce que quand il dit je n'ai pas la maîtrise de mon corps, donc là il fait référence quand même à ses pratiques sexuelles, ça illustre bien de ce qu'on essaye de cerner, justement, en quoi les phénomènes de corps sont déterminés par l'inconscient et que ça échappe au sujet. Enfin, que ce n'est pas du sujet. Alors que ce qui peut relever de la question de l'identité sexuelle, se dire homme, se dire femme, ça relève du côté du sujet. Enfin, c'est le sujet qui peut se dire comme tel. Et même si lui il balance entre l'un ou l'autre, avec quand même une pente à l'aide plus d'un côté que de l'autre, ça, je trouve que ça illustre ça bien, cette disjonction entre les deux.
Il y a Karim Barkati qui a demandé la parole, alors je vais réactiver. Voilà, oh, pardon. Voilà, oui, c'est bien Karim,
on a fait un
vous
tour.
Pouvez y aller, oui, pardon.
Merci, merci beaucoup pour vos exposés, très variés en effet. J'ai une question pour Bernard et puis une question pour vous trois. Bernard, merci pour ton historique de la notion de résistance chez Lacan. Hein. C'était très instructif ce passage, ce voyage historique de cette notion. Et ça nuance l'évidence aussi, effectivement, en tout cas pour moi. Ma question. Ce que tu as développé, c'est que quand quelque chose nous tombe dessus, eh bien, la résistance peut parfois se mettre de la partie, y répondre à sa façon. La question que je te propose, c'est qu'est-ce que tu dirais de l'idée un peu inverse, que, est-ce que la résistance nous tombe dessus ? En attendant, je pose ma question pour vous trois. On a vu pas mal de choses à propos de ce qui nous tombe dessus, le réel, la castration. Il ne me semble pas avoir entendu la question de l'amour qui peut nous tomber dessus. Qu'est-ce que chacun vous pourriez en dire ? Merci.
Peut-être Bernard, vous pouvez.
Oui. On va essayer de reprendre un petit peu ce qu'a mené Nadine tout à l'heure. Je crois qu'un des éléments qui me travaille, c'est la question de comment la psychanalyse prend place dans la sociale. Voilà, un petit peu, hein, au niveau des. C'est-à-dire ce qui a été un peu développé, l'enseignement de Lacan est aussi ancré sur les oppositions, Freud aussi d'ailleurs, ça prend place dans l'opposition, en fait, ça fait rupture quoi, par rapport au discours social. Et pour, par rapport à ce que dit Karim, je ne crois pas que la résistance nous tombe dessus. Je crois que c'est un effet, mais un effet de ce qui nous tombe dessus. Mais je crois pas. Je crois que c'est une. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Que c'est une conséquence. C'est une. Ça. Mais je sais pas si c'est si ça tombe dessus. La résistance n'a pas d'effet de surprise. Je crois que ce qui tombe dessus, quand même, oui. Après coup. Enfin, on peut lui donner un effet de surprise. On peut quand ça prend place, ça peut être pensé comme un effet de surprise. La résistance, je ne sais pas. Moi, je le verrais plus du côté d'un refus de ce qui. Mais il n'y a pas que ça dans l'aspect de la résistance. Ouais. Il y a la dimension d'opposition dans la résistance. Voilà, c'est un peu ce qui.
Bernard, est-ce que je peux. Parce que j'allais pas aller dans le même sens que Karim, mais justement, pour préciser quelque chose, moi, je me demandais si la résistance était justement l'envers des surprises de l'inconscient, dans le sens qu'elle manifesterait en creux l'inconscient et sa structure, mais justement… Cette fermeture, je sais plus, enfin, je crois que c'est dans le séminaire 11 où Lacan parle du transfert et de la fermeture de l'inconscient, comme il dit que ça rentre dans la question de l'inconscient. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que la résistance fait partie du concept d'inconscient, mais à l'envers de la surprise ? Mais c'est, comme vous avez dit à un moment, la résistance ferait-elle signe de l'inconscient ? Ferait-elle signe d'un impossible ? Alors, est-ce que Il y a quelque chose là quand même qu'on peut mettre en tension quoi, entre la surprise et la résistance, mais en creux. Voilà.
Oui, c'est ce qui m'est apparu en faisant ce parcours, c'est que là, il y a une espèce de dégagement petit à petit du concept de résistance, quoi. Le concept de résistance est un peu au centre parce qu'il avait pris cette place-là. Et Lacan le déplie sur qu'est-ce que c'est, de quoi elle est constituée en fait. Et on se rend compte que ça ne fait pas une unité, la résistance. C'est fait de plusieurs éléments qui sont, en tout cas dans la conception qu'il amène, dans comment il construit la structure, ça relève de plusieurs champs, en fait, de plusieurs autres concepts, quoi. Il me semble. Et d'ailleurs, après, il n'en parle plus, sauf la résistance à la psychanalyse.
Nadine, je voudrais dire quelque chose.
Oui.
Je ne peux pas mettre ma main parce que je suis animatrice.
Colette. Il y a Patrick et Patricia qui vont répondre. Et ensuite, Colette, c'est à vous. Hein, je vous laisse le micro après.
Ça ne sera pas long, c'était par
rapport. Oui, je ne peux pas.
Voilà. Bon, de toute façon, ce n'était pas dans l'objet de mon texte de parler de l'amour. Juste une petite réflexion comme ça. Est-ce que l'amour, ça nous tombe dessus? Je pense que l'amour, non, je n'ai pas le sentiment que l'amour nous tombe dessus. L'amour, enfin, la rencontre avec le partenaire, certainement, est contingente et peut avoir un effet de surprise, mais. Quand même l'idée que l'amour était en attente, l'amour était prêt à. C'est pas quelque chose qui. Si autant la rencontre, on peut la qualifier de par surprise, mais le sentiment amoureux, s'il advient, je pense que c'est parce qu'il était là, prêt à l'être.
Patricia, tu peux dire quelques mots après Colette.
Moi, je serais un peu d'accord avec Patrick. Moi, je dirais plutôt que les mots qui me viennent, c'est les kairos. Hein. Peut-être que c'est de pouvoir saisir l'occasion, hein, de l'attraper. Hein. Et ça m'évoque plutôt ça, hein, d'être peut-être prêt à saisir, hein, ces rencontres.
Oui, merci. Colette.
Oui. Sur le dernier point, moi, je pourrais citer plusieurs cas où on pourrait dire que l'amour lui est tombé dessus. Mm-hmm. Et que c'est vécu comme ça. Mm-hmm. Donc, oui, compliqué. Alors, moi, je suis un peu perdue, hein, je dois dire. Entre les trois exposés, je n'arrive pas à trouver de point de gravitation commune, donc je ne me force pas. Peut-être que le problème vient d'avoir du titre qui est donné à la soirée. Mettre les surprises de l'inconscient dans le chapitre de ce qui nous tombe dessus est déjà en soi une question, parce que quand on dit « ce qui nous tombe dessus », la connotation de l'expression, ce n'est pas seulement la surprise. C'est que ça nous bouleverse, que ça n'est pas heureux, que c'est plutôt, que ce n'est pas révélateur, que c'est plutôt à la limite traumatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on évoque ce soir aussi, Patricia évoque le traumatisme. Les surprises des formations de l'inconscient sont des surprises, mais moi je ne dirais pas qu'elles nous tombent dessus. Je trouve que c'est hétérogène, les deux expressions déjà. Par contre, effectivement, et du coup, il y a une hétérogénéité de ce qui nous tombe dessus. C'est très sensible dans l'exposé de Patricia, puisqu'elle évoque Freud. Et quand Freud parle du traumatisme et que les blessures dispensent du traumatisme subjectif, de quoi parle-t-il? Il parle des névroses de guerre. Il ne parle pas du tout du traumatisme sexuel à ce moment-là. Et donc, ceux qui nous tombent dessus en situation de guerre ou en situation de pandémie ou entre quand il y a un tsunami, c'est quand même d'un autre ordre que ce qui nous tombe dessus du sexe ou de l'inconscient. Et donc, du coup, c'est très, le thème est trop large. Enfin, ce qui nous tombe dessus. Bon, alors après, il y a la question dans le sexuel, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Quel est le choix? C'est la question que tu poses, Patrick. Oui. Oui, ce qui tombe dessus vraiment, c'est quand même toujours du côté de la jouissance. Hein. Ce que ton patient exprime, d'ailleurs, il l'exprime avant toute analyse.
Ah oui.
Hein? Peut-être que s'il faisait vraiment une analyse, ça, il pourrait cesser de dire « ça me tombe dessus ». Peut-être, peut-être. Hein? Mais... À part ça, l'inconscient nous tombe-t-il dessus? Vraiment, je trouve que c'est un fil délicat à ouvrir, parce que l'inconscient ne nous tombe pas dessus. Il nous réserve des surprises. Il y a plusieurs façons de prendre l'inconscient, hein, en plus chez Lacan. Il y a la première grande définition, la freudienne, reprise par lui, qu'il déplie très très bien dans la télévision. L'inconscient soit le désir qui insiste dans la demande. Bon, c'est l'inconscient comme désir qui insiste dans la chaîne signifiante. On ne peut pas dire que ça tombe dessus. On peut dire que c'est constituant, que c'est central, mais ça ne tombe pas dessus. Après, il poursuit et il arrive aux symptômes. Alors, le symptôme dans télévision, c'est encore pas celui qui tombe dessus non plus, c'est le nœud de signifiant, etc. Alors, finalement, le moment où on a une expression de Lacan qui connecte le champ analytique avec ce qui nous tombe dessus, c'est le symptôme événement de corps. C'est ça que, sans doute, qui t'a inspiré, Patrick, à partir de ce cas. Le symptôme événement de corps, alors l'événement, ça tombe, oui. L'événement nous tombe dessus. Mais toutes les définitions de l'inconscient qui ne sont pas événements, qu'il s'agisse du désir, qu'il s'agisse de l'inconscient savoir, de l'inconscient signifiant, ça ne rentre pas dans ce qui nous tombe dessus. Ça rentre dans ce qui nous constitue malgré nous, peut-être. Oui, ça peut nous contraindre, mais ça ne tombe pas dessus. Donc, je trouve que l'idée d'homologuer les surprises de l'inconscient et ce qui tombe dessus me paraît… C'est pas vous, hein, c'est pas vos exposés. C'est le titre de la soirée qui m'a beaucoup surprise, c'est le cas de le dire. Ça ne m'est pas tombé dessus, mais ça m'a surprise. Voilà, donc c'est quelques remarques pour discuter. Hein.
Si je peux dire juste un mot pour…
Oui.
D'ailleurs, bon, j'ai été, disons, dans le borné par les thèmes et les titres.
Il traitait la question, quoi.
Voilà, donc je me suis efforcé à traiter la question. Et dans le début de mon exposé, j'ai bien dit que les formations de l'inconscient, enfin, ce qui apparaît comme surprise. N'est pas vraiment ce qui nous tombe dessus, puisque c'était attendu, même si c'était là, il y avait quelque chose qui était déjà là. Voilà, et le côté vraiment de ce qui nous tombe dessus, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est la question qui a rapport au phénomène de corps.
Oui.
Mais.
Pas tous. Tous,
événement. Oui, événement de corps. Tout ça avec le, quand même, justement, pour essayer de différencier ce qui, quand même, peut être vécu subjectivement comme un, comme une contrainte, quelque chose qui, les sujets quand même le disent comme ça, lui il le dit comme ça, qui nous tombe dessus, qui est l'identité du sexe. Mm. Il y a quand même une dialectique à faire là, entre l'identité sexuée, qui est quand même véhicule comme certains, comme ce qui leur tombe, ce qui nous tombe dessus. C'est-à-dire sans choix.
Du côté du trou, non, de quelque chose qu'on ne choisit pas, qu'on est là.
Hein. Patricia, je voulais vous poser une question. C'est une petite question. Quel est le rapport, je n'ai pas vu le rapport, entre votre comique de départ et la fin que vous faites sur le traumatisme?
Et le comique du départ?
Oui, votre idée qui est peut être un comique.
Et c'est vrai que j'essayais aussi de lier, c'est du thème, hein, c'est du sujet, hein, la surprise. Hein. Il sait qu'il nous tombe dessus. Et, ah oui. et peut-être, je ne savais pas comment faire. Moi, je pensais que c'est qu'il nous tombait dessus. Je l'ai pris vraiment comme du fait quelque chose de. C'est pour cela que je me suis référée à Freud. Et vraiment, de quelque chose de. De qu'on n'a pas le choix, hein, de quelque chose qui est la mort, la maladie, les accidents, hein, et c'était mon idée, hein, pour moi, et pourquoi les comiques, et j'essayais de, à vrai dire, si vous voulez, j'ai parlé du comique, mais j'avais derrière, mais que je pouvais pas le développer. Et c'était l'acte analytique. C'est-à-dire que, bon, j'ai parlé du comique pour ce jeune homme qui me semblait assez intéressant. Hein. Il me semblait qu'il pouvait rendre compte de quelque chose du comique. Et du comique, et je me suis posé la question, c'est Lacan qui s'est posé la question, pourquoi Freud a utilisé ces chemins les plus longs, hein, de la tragédie, hein, et pourquoi pas les comiques, hein. Et il me semblait que les comiques, avec sa manière rapide, hein, et courte, qui est nécessaire pour faire rire, hein, il me semblait qu'on pouvait penser un peu l'acte analytique comme quelque chose qu'il faut faire court aussi et rapide pour que ça fasse effet. Et pourquoi là, c'est plutôt du côté de la surprise, comme quelque chose qui viendrait couper un peu quelque chose qui vient couper les discours du sujet, hein, quelque chose qui fait un peu effraction, mais je pensais plus comment est-ce que ça pourrait être une espèce de pensée comme une espèce de solution, d'alternative à ces choses tragiques ou traumatiques. Mais je ne pourrais pas dire davantage, je vais essayer de lier les deux thèmes. Hein.
Le micro, je te mets bien, mais je te donne ton micro là.
Oui, pardon. Je dis, oui, il y a Marc, Sol, puis après Radou. Vous posez vos questions et ensuite les collègues répondront. Marc, à toi.
Eh bien, bonsoir à tous. Et évidemment, merci aux exposants pour les exposés très différents mais très intéressants tous les trois. Alors, j'ai bien aimé l'équivoque du jeu de mots Bernard Bruni de Lacan dégage la résistance. Il la dégage plus comme au football ou au rugby que comme à l'université. On ne sait pas ce qu'elle devient. Et quand même, c'est vrai que dans le langage, on se défend, mais ça résiste. Est-ce que, c'est la question, Est-ce que finalement Lacan n'a pas caché la résistance dans le mur du langage, celui contre lequel on se cogne? Alors, Patricia, merci pour cet intermède tragicomique. C'est Lacan a dit, si j'ai bien entendu, si je me souviens bien de la phrase, la vie est comique et pas tragique. Alors, je voulais vous demander qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Et, parce qu'il y a beaucoup de comiques. Il y a le comique troupier, ce n'est pas le genre de Lacan. Il y a le tragicomique, et entre les deux, je dirais, il y a le comique désenchanté de Freud et le comique sarcastique de Lacan. Du moins, c'est comme ça que je l'ai dit. Alors, comment entendez-vous la vie, c'est comique? De quel comique s'agit-il? Patrick, c'était vraiment serré, allez, passionnant, très, très précis. Je m'arrête sur une phrase. Le réel du symptôme comme événement de corps ne donne pas l'identité sexuée, mais l'identité de jouissance. Alors, deux questions là. La première, très compliquée, que tu as déjà évoquée. Comment se noue-t-elle entre elles, l'identification de le réel, comment se noue le réel du symptôme et l'identification sexuée? Comment ça peut se dire, mais ça c'est très compliqué. En revanche, je voulais te poser une question qui n'est peut-être pas pertinente. Ce réel du symptôme comme événement de corps, est-ce qu'il est déjà d'emblée, a priori, structuré comme tout, tout et pas tout, pas tout? Est-ce que déjà cette dimension-là intervient au moment donc où le réel du symptôme, le réel se fait symptôme? Merci.
Sol, si tu veux poser ta question.
Oui, merci.
Tes questions.
Merci beaucoup aux trois exposants. J'ai apprécié les trois interventions. Je trouvais que dans la discussion, Patricia Gavilanes résumait bien la façon dont Bernard Bruni avait commencé son exposé, puisqu'elle parlait du kairos, de la façon de l'attraper, de le saisir. Et c'est exactement ce que Bernard Bruni a fait au début de son exposé, en nous expliquant que cette invitation lui était tombée dessus. Donc, il a su répondre. Donc, je me disais, je suis d'accord à propos des réserves exprimées par rapport à l'assimilation des surprises à ce qui nous tombe dessus. J'ai aussi du mal à penser la surprise de ce côté-là, parce qu'il me semble que dans les surprises, nous sommes toujours prises. Hein? Ce qui nous surprend, nous prend, nous sommes pris dedans, ce qui n'est pas le cas de ce qui nous tombe dessus. Donc, je distinguerai les deux aussi. Et il me semble se pose un peu la question qui était présente dans les exposés de ce qui répond, comment le sujet répond à ce qui lui tombe dessus. Hein? Et il y a eu quelque chose en passant que Bernard Bruni a dit et qu'on retrouve, me semble-t-il, dans l'exposé de Patricia. Bernard a dit à un moment que l'imaginaire résiste, fait résistance à ce qui tombe dessus. J'ai trouvé ça très, très, très clair au moment où il l'a dit. Je ne me souviens plus du contexte de son exposé, mais ça m'a paru limpide. Et on voit exactement ça dans l'exposé de Patricia Gavilanes avec la façon dont elle a fait valoir que le tenir debout fait résistance au réel, à ce qui tombe dessus, hein, pour son patient. Alors, Patrick, j'étais très intéressée par ton exposé et j'avais envie de... Quand tu t'interrogeais à la fin, tu hésitais à formuler à propos de la jouissance autre, qu'on puisse en dire que ça tombe dessus. Je me disais en effet, elle ne vous tombe pas dessus, elle vous élève plutôt. Elle vous élève au-dessus, elle vous arrive, elle vous absente. Effectivement, on a du mal à penser que la jouissance autre vous tombe dessus. Et alors, par rapport à la question du choix, C'est une question que je me pose toujours. C'est difficile, cette question du choix. Et je trouve que, je pensais en t'écoutant à l'expression de Lacan, bien plus ancienne que le séminaire encore, quand il évoque le choix, la décision insondable de l'être à propos de la psychose. Je crois que c'est dans les propos sur la cruauté psychique. Donc c'est une forme de choix, je dirais, insondable. Et par rapport au choix du sexe, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, est de cet ordre-là. C'est-à-dire que dans la façon que Lacan a de présenter les choses dans le séminaire encore, j'ai souvent hésité à mettre ça du côté du sujet. Il me semble qu'il en fait par moments un choix de l'être, pas un choix du sujet. Donc il y a une vraie difficulté là. Il me semble que c'est un choix, je dirais, un choix de l'être, encore que l'expression soit suffisamment vague pour demander explication, hein, que je ne suis pas en mesure de donner pour l'instant. Mais je trouve qu'il est difficile d'attribuer ça, le fait de se placer d'un côté ou de l'autre du célèbre schéma, comme un choix du sujet. Il me semble que le
sujet... Ce n'est pas un choix de libre arbitre.
Absolument pas, oui.
Ce n'est pas un choix de libre arbitre comme...
Ce n'est pas un choix de libre arbitre, certainement pas. C'est un choix qui se fait et que le sujet assume ou pas, ratifie ou pas. Je pense qu'il y a une distinction à faire là-dedans. Voilà, merci beaucoup.
Merci Sol. Radou, si tu as la parole.
Oui, bonsoir. Merci à tous les trois. D'abord Bernard, évidemment. ça t'est tombé dessus un peu, cette affaire d'intervention. Mon acte manqué, c'est-à-dire j'ai oublié d'annoncer Bernard qu'il allait intervenir à ce séminaire. Donc, il avait son nom sur l'affiche. Ça lui est tombé dessus. Voilà. Mais moi, je suis quand même assez étonné de cette tournure de la discussion où ce qui nous tombe dessus n'est pas du côté de la surprise. Je ne comprends pas très bien. C'est comme si ce qui nous tombe dessus, ce sera du côté d'une sorte de trauma, d'une jouissance, enfin, qui sera déliée du signifiant. J'ai du mal à saisir parce qu'une brique qui nous tombe dessus, enfin, c'est dans l'après-coup que ça fait trauma.
Donc, on n'est pas surpris.
Ben, la surprise, elle vient après. Disons, c'est la surprise de ce que ça fait pour le sujet. Les sujets ne vivent pas l'événement de la même façon. Donc, y a quelque chose, enfin, qui est quand même, par exemple, la résistance dont parlait Bernard. Enfin, Lacan disait la résistance, il parlait de la clinique, de la cure, c'est toujours la résistance de l'analyste. Mais si on se met à la place de l'analysant, la résistance de l'analyste, c'est une surprise. Comme toute surprise, c'est une mauvaise surprise. Ça lui tombe dessus. C'est-à-dire, il ne s'y attendait pas à ce que l'analyste résiste à ses associations libres. Donc, bon, je me dis que c'est un peu plus complexe que ça et que même si on dit événement de corps, d'accord, ben, enfin, l'événement de corps est de corps, mais du corps borromain, c'est pas le corps, disons, complètement en oubli du signifiant. Voilà, donc je sais pas si vous voulez commenter là-dessus.
Oui. Patrick, Bernard, Patricia, si vous voulez un petit peu réagir.
Je vais commencer par répondre. Donc, les questions de Marc sur ce que j'avançais, en prenant Lacan, hein, sur le réel du symptôme comme événement de corps qui ne fait pas identité sexuelle ou identité de jouissance. Et Marc me posait la question de savoir comment l'identité de jouissance peut être liée à l'identité sexuelle. Question un peu vaste, mais certainement. Je ne sais pas, là je mets plutôt entre parenthèses la réponse, j'essaie d'un peu réfléchir. En revanche, l'autre question sur le réel du symptôme, tout, pas tout, c'est côté tout, quoi. Enfin, à partir du moment où ça relève des uns de l'inconscient, c'est du côté tout. Puisque c'est de la jouissance phallique, de la jouissance du symptôme. Je vois plus Marc. Pour moi, c'est de la jouissance phallique. Un petit mot sur sol. Oui, oui, en ce qui concerne la jouissance haute, j'ai posé la question parce que je n'ai pas la réponse. J'ai trouvé qu'on n'en parle pas beaucoup. Et est-ce que, bon, ça, c'est une question à voir. Est-ce que ça nous tombe ou est-ce que ça vous élève? À voir. Oui, sur l'histoire du choix, c'est toujours effectivement une question difficile. Alors, moi, j'ai essayé de l'aborder dans le petit temps qui était, dévolu. En tout cas, est-ce que c'est du sujet ou de l'être? Enfin, si on prend l'être au sens du corps, non, c'est du côté du sujet. Et Lacan, c'est dans l'étourdi, quand justement il pose le côté, il formule la sexuation du côté femme, il dit de deux modes dépend que le sujet ici se propose d'être dit femme. Enfin, c'est le sujet ici qui se propose. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce... Je me suis même moi-même posé la question, qu'est-ce qui permet, en quoi Lacan est-il autorisé à placer l'hystérie, qu'elle soit homme ou femme, côté homme, des formules, en quoi est-il autorisé, en quoi s'autorise-t-il ou est-il autorisé à placer certains mystiques hommes du côté femme et d'autres mystiques du côté homme, pour ne pas retomber dans un dire a priori. Parce que ces sujets eux-mêmes se disent comme tels. Alors, évidemment, ils ne vont pas se dire, ils n'arrivent pas avec un standard en disant je suis homme ou je suis femme. Mais dans les dits, c'est faire quelque chose d'un dire qui les placerait d'un côté ou de l'autre. C'est en ça que j'ai essayé de saisir en quoi, effectivement, ce n'est pas un choix de libre arbitre, mais c'est un choix contraint, mais néanmoins, c'est quand même du sujet.
Excusez-moi, j'interviens, je profite. J'aurais bien aimé juste renvoyer un petit mot à Patrick au moment où il répondait à ma deuxième question, mais là, tout le monde l'a oublié et c'est trop tard. Alors, j'en profite pour une requête. J'aimerais que les gens, le temps qu'ils soient répondus à leurs questions, les micros restent ouverts pour qu'il y ait quand même un minimum, non pas de bavardage infini, mais de dialogue possible.
Marc, le micro était resté ouvert. Je ne sais pas comment il s'est refermé. Je n'ai pas touché.
D'accord.
Non, non plus, je n'ai pas touché.
Voilà. Bernard, peut-être, et Patricia, si vous voulez réagir.
Oui, je suis d'accord avec la remarque de Marc Strauss sur cacher la résistance dans le mur du langage. Et dégager la résistance aussi, d'ailleurs. Y a un point qui reste à éclaircir, mais que je trouve intéressant, c'est effectivement cette question-là qui est amenée sur ce qui nous tombe dessus et les surprises de l'inconscient, quoi. Ça ne va pas de soi. J'ai aussi rencontré cette difficulté-là pour rester dans le thème, quoi, en quelque sorte. Je trouve que ça coule pas de source, cette histoire-là. Voilà. Et donc, que ça soit déplié d'un côté et de l'autre, je trouve ça intéressant, quoi. Voilà ce que je peux dire comme remarque.
Alors, peut-être je pourrais poser une question à Bernard pour relancer la discussion. Finalement, vous avez bien suivi le chemin là, et vous avez montré comment Lacan, à la fin, la notion de résistance, en tant que résistance, soit de l'analyse, soit du sujet, il la dégage. Bon, et que ce qui résiste, en fait, effectivement, c'est du côté de la structure du langage. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Je suis d'accord avec ça, hein. Qu'est-ce que vous diriez ? Que deviennent les expressions qu'il avait employées jusque-là et qu'on cite avec prédilection ? La résistance est toujours du côté de l'analyste. Oui, mais s'il n'y a plus de résistance, s'il n'y a plus de résistance subjective du côté analysant ou du côté analyste, alors que deviennent ces formules ? Ce serait amusant de les réadapter à la dernière thèse. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui. Il me semble, enfin, dans ce que j'en ai compris, que c'était là qu'il avait mis la question du désir de l'analyste et de l'acte. C'est-à-dire que ce n'est plus le terme de résistance ce qui était l'objet du travail des analystes dans les années 55. Il en dégage. Il dit que, en fait, ce qu'il va mettre au travail là-dessus, c'est l'acte et le désir de l'analyste.
Oui.
Voilà. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu, en quelque sorte.
Oui, oui, d'accord. Oui. C'est une piste, oui. Mm-hmm.
Il y a une question de Camilo Gomez. Vous avez la parole.
Le comique. Patricia, le comique.
Je voudrais vous dire que bon, je pense que c'est les comiques de Lacan peut-être. Je pense que, mais j'insiste je pense que c'est une réponse.
D'accord. Oui. D'accord avec le fait qu'il est très sarcastique. Quand même.
Oui, mais je pense qu'il est sarcastique, certes, mais je pense qu'il y a quelque chose comme une réponse. Je le vois comme une réponse, c'est comique. Hein? Et j'ai parlé de ce jeune homme, et j'ai parlé après des comiques, comme réponse à c'est quelque chose que la vie nous impose parfois, bon, de pouvoir tourner. Et pour moi, c'était important de voir comment Froland insiste beaucoup. Hein, il a quand les réponses. C'est ça qui m'a surpris, hein, de voir comment il dit pourquoi il a pris le chemin le plus long. Hein, parce que Freud insiste dans l'économie, dans les comiques, il y a une espèce d'économie. Hein. J'ai parlé de l'acte analytique parce qu'il y a une économie. Hein. Une économie des mots, il y a un certain raccourci, un court-circuit, j'ai appelé comme ça. Hein. Je pense que Bernard aussi a utilisé ces mots, un hein, court-circuit. Voilà.
Je le voyais comme ça. Dans télévision, Prest pour satisfaire à l'entreprise, etc.
Voilà, je l'ai pris comme ça. Hein. Je l'ai pris au sérieux. La question du comique. Je le prends au sérieux.
Est-ce que le comique, quand même, ne reste pas toujours très, très cantonné à deux ? C'est la thèse de Freud, c'est la thèse de Lacan dans le commentaire. On est deux dans le comique. Oui. Alors que dans l'humour, et aussi, on est trois, forcément. Oui. On est trois, dans le mot d'esprit, il y a des trois. Et donc, ce deux, ça limite la portée du comique. Ça limite la portée du comique, à mon avis.
Oui, ça limite, mais en tout cas, selon Freud, hein, et ouais. Bon, ce qu'on voit, et Freud, il appelle toujours les mots d'esprit. Hein, quand il parle du comique, il dit toujours et les mots d'esprit est solidaire. Hein, il vient toujours accompagner les comiques. Hein.
Le rire n'est pas forcément, on ne rit pas forcément seulement du comique.
Non.
On rit aussi du mot d'esprit.
Voilà, du mot.
Le rire répond au mot d'esprit, mm-hmm. Il répond aussi à toutes les situations comiques.
Voilà.
C'est vrai que la frontière est quelquefois floue quand même.
Oui, 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 c'est sûr, oui. Oui.
En effet, oui.
Dans ce sens, excuse-moi Nadine, dans ce sens, c'est des les liens sociaux, oui, vous dites à deux, je ne sais pas si c'est mon 2, mais il insistait que pour les comiques, pour les mots d'esprit, il faut une petite communauté, il faut être un petit peu pour la levée de l'inhibition, il dit, hein, il faut avoir la même, pas la même, mais il faut avoir certains repères, hein, pour pouvoir rire.
Il y a un entre-soi du comique.
Voilà.
On prend la dernière question de Camilo. Parce qu'il est déjà presque 11 heures. Allez-y, Camilo.
Bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui.
Alors, c'est une question pour Patrick Barillot. Et merci pour les exposés. Patrick, la position du patient qui est celle de dire que le corps, le sexe lui tombe dessus, ça peut faire penser à une position assez classique de type de choix homosexuel, comme quoi on se dit voilà, c'est, je suis né femme en étant homme, etc., etc. Mais bon, la question, c'était par rapport à ce que tu penses quand tu nommes de corps, parce que dans le séminaire encore, quand Lacan il parle du signifiant qui s'inclut dans le corps, qui s'inscrit dans le corps, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce sens, plutôt parler que c'est donc le signifiant qui tombe dessus, c'est-à-dire que finalement, comment on peut parler d'un corps qui tombe dessus compte tenu du fait que c'est ce corps qui est inscrit par le signifiant qui fait corps, quoi. Donc c'est où est-ce qu'on trouverait le choix de ce sujet, où est-ce que le sujet peut dire ça me tombe dessus, voilà. Je sais pas si c'est super, mais bon, c'est par rapport à cette histoire du corps qui serait au disjoint de l'inscription de la jouissance, voilà, comme ça, c'est la question.
Patrick.
Yaradou et puis...
Ah, Yaradou, pardon.
Est-ce que tu pourrais dire quelque chose à Radou? Non? Est-ce que je pourrais dire chose à Radou? Oui. Ah, non?
Si, vas-y.
Non, voilà. Et je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Radou, mais je voulais te dire que les mots et surprise, et là, si on regarde un peu l'étymologie, ça vient d'un pot, hein, quand même. Hein. Et ces mots que je ne connaissais pas, que c'est exaction. Hein. C'est quand même exigé, réclamé par la force, quand même, ce qui n'est pas dû. Hein. Ou réclamer plus de ce qui est dû. Bon, j'ai trouvé ça, voilà, mais je ne sais pas si c'est un rapport à la question de Radou, mais j'ai trouvé ça important, hein, pour ces histoires.
Vous avez entendu? Moi, je n'ai pas entendu.
Ah, pardon.
Ça vient d'où, vous dites?
Des impôts, du mot impôts, et des mots.
Les impôts pour payer.
Oui, les impôts. Impôt.
La surprise vient du mot. Le mot surprise vient du mot impôt.
Oui, de surprendre. Et si on remonte plus dans l'ancien français, ça vient des mots impôt et du mot exaction, hein, qui c'est prendre, c'est exiger, réclamer et parfois par la force.
Oui, quand les impôts viennent te réclamer les trucs, c'est une mauvaise surprise.
Mais... c'est des impôts extraordinaires, hein, c'est marqué.
Moi, je voulais revenir sur l'affaire de la résistance, c'est pour ça. Je trouve que, oui, toujours les formules de Lacan, c'est, on peut les tourner, finalement, on peut les tourner comme on veut, hein. On peut dire là, il a raison, là, il change, là, comme selon notre disposition, disons, soit du jour, soit de l'année. Mais j'ai du mal à comprendre, enfin, la résistance est du côté de l'analyste. Bon, on peut ne pas être d'accord en tant qu'analyste, hein, on peut ne pas aimer cette idée que c'est du côté de l'analyste, mais il y a quelque chose, par exemple, dans ce que dit Freud sur l'homme, enfin Lacan, l'homme aux cervelles fraîches. Voilà, il y a l'analyste qui dit à son patient, bon monsieur, vous n'êtes pas plagiateur, tout va bien. Et l'autre qui se précipite au restaurant d'en bas et qui mange des cervelles fraîches. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose, enfin, qui illustre très bien que la résistance est d'un certain côté est très bien délimitée et que ça fait sur l'autre un effet dévastateur, enfin symptomatique. Donc,
tout à fait, si on croit à l'analyse de Lacan.
Ah. Là, tu me surprends, Colette. Là, tu me surprends. Ça me tombe dessus. Hein.
Point épistémologique. Attention. Pour dire que l'intervention de cet analyste illustre la résistance, il faut avoir admis le point de vue de Lacan.
Ben oui.
Et donc, ça veut dire que l'usage même de la notion de résistance, elle dépend de la position doctrinale qu'on a déjà. Et c'est ça la difficulté, c'est que pour identifier une résistance, on ne peut pas analytiquement parlant, une résistance d'analyste, hein, je parle, pas des résistances en général, pour identifier un analyste qui résiste, on est obligé d'être sur un point de vue déjà extérieur, d'où on a déjà défini ce que doit être la réponse de l'analyste et qui ne correspond pas à celle qu'il donne. Et donc, c'est très, très difficile d'identifier une résistance de l'analyste.
C'est pour ça que je trouve,
quand Lacan se passe de cette notion pour dire acte analytique, comme l'a dit très bien Bernard Bruny, il passe à la notion désir de l'analyste, acte de l'analyste. C'est tout aussi difficile à identifier, hein, à dire, voilà, là, il y a l'acte, là, il désirait, c'est très difficile, mais c'est le même type de difficulté.
Mais en même temps, je crois que je suis d'accord, mais il y a quelque chose de très solide quand Lacan fait la discussion de l'acte avec le passage à l'acte et l'acting out.
L'acting out, c'est
le phénomène du côté de l'analysant de la résistance de l'analyste. C'est-à-dire l'analysant renvoie à l'analyste quelque chose de « vous vous êtes trompé ». Donc là, c'est solide, je crois. On ne peut pas contester ça. Hein. Cliniquement, c'est très, très bien repérable.
Je crois que je ne me suis pas fait comprendre, mais ce n'est pas grave.
Bon, est-ce que Patrick, tu voulais réagir à Camille?
À Camilo,
peut-être les dernières, les dernières minutes.
Je vais pas faire long. Non, mais c'est une question. Ah oui, alors est-ce que le corps du langage,
la langue.
Oui, il y a le corps du langage qui doit s'incorporer dans le corps substance jouissance. Et puis l'histoire. L'articulation avec le symptôme. Bon, la thèse, c'est que c'est une coalescence, un événement de jouissance. Alors, je ne sais plus si c'est un événement de jouissance ou un phénomène de jouissance avec un élément de la langue. Alors, mais votre question, c'était de savoir si ce n'était pas du côté de la langue qui faisait effraction ou. C'est ça, je crois, votre question, l'effraction au niveau corporel.
Oui, par rapport à la position qui est assez classique de certains homosexuels hommes ou femmes, d'ailleurs, de dire que c'est quelque chose qui leur tombe dessus, que ce n'est pas leur choix identitaire, c'est qu'ils sont nés comme ça, mais dans un corps étranger. Mais
après, c'est la question du partenaire, parce que être homosexuel, c'est enfin, là, dans ce que j'entends, c'est la question du choix du partenaire. Donc ça, c'est autre chose. Alors, mais pour revenir à la première développement, ça renvoie à la thèse de la langue comme traumatique.
Ouais.
Enfin, effectivement, je ne sais pas si c'est une thèse de Lacan. Je suis pas certain. Je pense que oui, mais je suis pas certain. Enfin, moi, j'ai toujours été un petit peu dubitatif par rapport à ça. Autant l'événement de jouissance corporelle, l'effet traumatique, ça, c'est cliniquement pour moi très perceptible. Sur la langue traumatique, ça, j'ai du plus de difficultés à saisir. Par rapport au le choix du partenaire, alors est-ce que le choix du partenaire s'impose? Il y a quand même, c'est quand même, c'est aussi quelque chose qui relève de la subjectivité. Là, c'est quand même pas, en tout cas, c'est quelque chose dont le sujet a à rendre compte. C'est pas comme l'événement de corps où là, ça. Ça ne relève pas de sa propre subjectivité.
Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour répondre. Bon.
Marc avait une question.
Alors, très, très vite, oui. Hein, parce qu'on va...
Bien sûr, toujours. Oui, je voulais intervenir dans le débat entre mon collègue et vous. Sur l'actualisation de la notion de résistance de l'analyste, est-ce que ce n'est pas le terme défaut de l'acte qu'a avancé Lacan?
Oui.
La résistance de l'analyste, défaut de l'acte. Et il me semble que cette expression, il l'a gardée jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux.
Non. C'est mieux que résistance, défaut de l'acte.
Bien. Alors, on va rester sur ce défaut de l'acte. Je voulais juste rappeler que la semaine prochaine aura lieu le séminaire école avec Natacha Vélite et Frédéric Pellion. Et puis pour le séminaire champ lacanien, ben on attendra 2021, certainement encore par Zoom, hélas. Voilà. Je vous remercie à tous. Même s'il y avait un petit peu de choses pas très bien comprises, ben ça quand même, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de... Merci aux intervenants, merci à vos questions et puis à bientôt. Et voilà, la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir, merci.